Chapitre 8. Alarme épouvantable dans l'auberge, causée par l'arrivée inattendue d'un ami de Mrs. Fitzpatrick. Alors Sophie, à la prière de sa cousine, raconta, non ce qui suit, mais ce qui s'est passé de relatif à elle dans le cours de cette histoire. Je suppose que pour cette raison, le lecteur voudra bien m'excuser de ne pas le lui répéter. Je ne peux m'empêcher cependant de faire une remarque sur son récit. C'est que depuis le commencement jusqu'à la fin, elle ne fit pas plus mention de Jones que si un pareil personnage n'eût pas existé sur la Terre. Je n'essaierai ni d'expliquer ni d'excuser cette réticence. Il faut convenir que si l'on y trouve une sorte de mauvaise foi, elle paraît d'autant plus inexcusable que sa cousine semblait s'être confiée entièrement à elle et avoir mis dans son récit la plus grande sincérité. Mais enfin, cela fut ainsi. Au moment même où Sophie était à la fin de son histoire, on entendit dans la chambre un bruit assez semblable à celui d'une meute de chiens qu'on vient de lâcher de leur chenil, ou à celui des chats quand ils se livrent à leurs combats amoureux, ou aux cris perçants des chouettes, ou plus semblable encore, car quelle voix d'animal peut ressembler à la voix humaine, à ces sons qui sortent de la bouche et souvent du nez de ces belles nymphes de rivière, autrefois appelées naïades et vulgairement nommées poissardes. Car lorsque, au lieu des anciennes libations de lait, de miel et d'huile, la nourrissante distillation de la graine de genièvre, ou peut-être de l'orge, a coulé en grande abondance pour satisfaire la dévotion matinale de leurs ferventes adoratrices, si quelque langue audacieuse prenait la licence sacrilège de profaner, c'est-à-dire de déprécier l'huître grasse et délicate de Milton, la plie ferme et fraîche, le carrelet aussi vivant que s'il était encore dans l'eau, la chevrette aussi grasse qu'un langoustin, la belle morue qui vivait encore quelques heures auparavant, ou tout autre de ces trésors différents que ces divinités des eaux qui pêchent dans la mer et dans les rivières, ont confié aux soins des nymphes, les naïades courroucées élèvent leurs voix immortelles, et le malheureux profane est frappé de surdité pour prix de ses blasphèmes. Tel était le bruit qui sortait avec éclat d'une des salles d'en bas. Et bientôt ce tonnerre, qui depuis longtemps grondait dans le lointain, commença à s'approcher progressivement de plus près, jusqu'à ce qu'ayant monté l'escalier, il entra enfin dans l'appartement où étaient les deux dames. En un mot, pour laisser là toute métaphore et toute figure, Mrs. Honora, après avoir querellé violemment au bas de l'escalier et continué de criailler en entrant, arriva en fureur dans la chambre de sa maîtresse, en s'écriant « Madame l'aurait-elle pensé ? » Auriez-vous imaginé que cet impudent maraud, le maître de cette auberge, a eu l'impudence de me dire, et même de me soutenir en face, que madame était cette salope, cette vilaine pute, on l'appelle je crois Jenny Cameron, qui court le pays avec le prétendant. Le menteur, l'effronté coquin, n'a-t-il pas eu même l'audace de me dire que madame elle-même le lui avait avoué ? Mais j'ai rossé le scélérat d'importance et lui ai laissé les marques de mes ongles sur son impudent visage. Ma maîtresse, lui dis-je, effronté bélitre, ma maîtresse n'est point un gibier à prétendant. C'est une jeune dame aussi distinguée, d'aussi bonne famille et d'aussi grande fortune qu'il y en ait dans Somersetshire. N'avez-vous jamais entendu parler du grand seigneur Weston ? Misérable ! Elle est la seule fille, elle est la seule héritière de tous ses grands biens. Ma maîtresse appelait une vilaine pute écossaise par un tel misérable. Ah, sans doute j'aurais voulu lui avoir fait sauter la cervelle avec le bol de punch. La plus grande inquiétude de Sophie en cette occasion fut causée par Mrs. Honora elle-même, qui avait dans sa fureur découvert qui elle était. Cependant, comme la méprise de l'hôte expliquait suffisamment quelques passages de son discours que Sophie avait d'abord mal interprété, elle devint un peu plus tranquille sous ce rapport et ne put même s'empêcher de sourire. Honora entra de nouveau en fureur et s'écria « Certes, madame, je ne pensais pas que madame eût pu trouver là le mot pour rire, être appelée pute par un vil et impudent coquin de cette espèce. Madame est sans doute fâchée contre moi de ce que j'ai pris son parti. Je n'en vois pas d'autre raison, sinon qu'un service pèse, dit-on, à la reconnaissance. Mais, j'en conviens, je n'ai jamais pu souffrir qu'on appelât devant moi ma maîtresse une pute, et je ne le souffrirai jamais. Je suis sûr que madame est aussi vertueuse qu'aucune autre dame d'Angleterre, et j'arracherai les yeux du premier vilain, quel qu'il soit, qui osera avoir l'audace de dire le plus petit mot du contraire. Personne n'a jamais pu dire le moindre mal de la conduite d'aucune des dames que j'ai servies. Inc ille lacrimae, de là ses larmes. Dans le fait, Honora avait autant d'attachement pour sa maîtresse que la plupart des domestiques en ont, c'est-à-dire... Mais d'ailleurs, son orgueil l'obligeait à soutenir l'honneur de la dame qu'elle servait, car elle pensait que le sien y était fortement attaché. Elle s'imaginait que son importance augmentait en proportion de celle de sa maîtresse, et que l'une ne pouvait être diminuée sans que l'autre en souffrît également. À ce sujet, lecteur, il faut que je m'arrête un moment pour te conter une histoire. La fameuse Eleanor Gwynn, sortant un jour d'une maison où elle venait de faire une petite visite, vit une grande foule assemblée et son laquais tout couvert de sang et de boue. Sa maîtresse lui ayant demandé la raison pour laquelle il était en cet état, il lui répondit « C'est que je me suis battu, madame, avec un impudent coquin qui appelait madame une pute. »« Sot que vous êtes, répliqua Mrs. Gwynn. En ce cas, vous vous battrez tous les jours de votre vie. Mais, imbécile, tout le monde le sait. » Tout le monde le sait-il ? S'écria le laquais en murmurant, et après avoir fermé la portière de la voiture. « Quoi qu'il en soit, ajouta-t-il, on ne m'appellera pas un laquais de pute. » La colère de Mrs. Honora peut donc paraître assez naturelle, même quand elle n'aurait pas eu d'autre motif. Mais dans le fait, il en existait un autre, pour lequel nous prierons le lecteur de se rappeler une circonstance dont nous avons fait mention dans la précédente comparaison. Il y a véritablement certaines liqueurs qui, jetées sur nos passions ou sur le feu, produisent des effets précisément contraires à ceux que l'eau produit, puisqu'elles servent à allumer et à enflammer plutôt qu'à éteindre. Dans ce nombre, on peut compter la liqueur forte que l'on appelle punch. Ce n'était donc pas sans raison que le savant docteur Cheney avait coutume de dire que boire du punch était verser du feu liquide dans son gosier. Or, Mrs. Honora avait malheureusement versé tant de ce feu liquide dans son gosier que la fumée commença à en monter à son péricrâne et obscurcit les yeux de la raison, qu'on suppose faire là sa résidence, tandis que le feu, en passant de l'estomac au cœur, y enflamma la noble passion de l'orgueil. En sorte que nous cesserons de nous étonner de l'extrême fureur de la femme de chambre, quoique nous soyons obligés de confesser qu'à la première vue, la cause semble moindre que l'effet. Sophie et sa cousine firent tout leur possible pour éteindre ces flammes qui avaient menacé d'incendier toute la maison. Elles y parvinrent enfin, où, sans quitter la métaphore précédente, le feu, après avoir consumé toutes les matières combustibles que la langue peut fournir, c'est-à-dire tous les termes les plus injurieux, s'éteignit de lui-même. Mais quoique la tranquillité fût rétablie au premier, il n'en était pas ainsi au rez-de-chaussée, où l'hôtesse, ressentant vivement le tort fait à la beauté de son mari par les ongles de Mrs. Honora, appelait à grands cris la vengeance et la justice. Quant au pauvre homme, qui avait le plus souffert dans le combat, il était parfaitement tranquille. Peut-être le sang qu'il avait perdu avait-il calmé sa colère, car son ennemi ne lui avait pas seulement appliqué les ongles sur les joues, mais lui avait encore donné un coup de poing sur le nez qui en faisait couler des larmes de sang en grande abondance. Nous pourrions ajouter à cela les réflexions qu'il faisait sur sa méprise. Dans le fait, rien n'imposait si absolument silence à son ressentiment que la manière dont il découvrit alors son erreur, car la conduite de Mrs. Honora n'avait fait que le confirmer davantage dans son opinion. Mais il venait d'être persuadé par une personne de grande apparence, qui avait une suite nombreuse, que l'une des dames était une femme de qualité et son amie intime. L'hôte, obéissant aux ordres de cette personne, monta aussitôt et instruisit nos belles voyageuses qu'un grand seigneur qui était en bas désirait leur faire l'honneur de les visiter. Sophie devint pâle et tremblante à ce message, quoique le lecteur, malgré la bévue de l'hôte, puisse penser qu'il était trop civil pour être de son père. Mais la crainte commet tous les jours la même faute que nos juges de paix et a du penchant à juger avec trop de précipitation sur les plus légères circonstances, sans prendre le temps d'entendre les témoins des deux parties. Pour répondre donc à la curiosité du lecteur plutôt qu'à ses craintes, nous ne perdrons pas un moment pour l'instruire qu'un père d'Irlande était arrivé la veille très tard à l'auberge pour se rendre à Londres. Ce seigneur s'étant levé de table en sursaut au bruit dont nous venons de parler, avait vu la femme de chambre de Mrs. Fitzpatrick et en avait bientôt appris que sa maîtresse, avec laquelle il était lié très particulièrement, était dans la maison. Il n'en fut pas plutôt instruit qu'il s'adressa lui-même à l'hôte, l'apaisa et l'envoya à la chambre de ces dames avec des compliments beaucoup plus civils que ceux qui leur furent rendus. On pourra s'étonner peut-être que la femme de chambre de Mrs. Fitzpatrick n'eût pas été la messagère employée en cette occasion. Mais nous sommes fâchés de le dire, elle n'était pas pour le moment en état de rendre ce service, ni aucun autre. Le rhum, car c'est ainsi que l'hôte aimait mieux appeler sa distillation d'orge, avait lâchement profité de l'avantage que lui donnait la fatigue du voyage sur cette pauvre fille, et avait donné le plus terrible assaut à ses nobles facultés dans un moment où elles étaient tout à fait hors d'état de résister. Nous ne peindrons pas cette scène tragique d'une manière trop forte, mais nous nous sommes crus obligés, par cette intégrité historique que nous professons, de rapporter le plus brièvement possible un fait que nous nous serions autrement fait un plaisir de taire. Car une foule d'écrivains, faute de cette intégrité ou de cette exactitude, pour ne rien dire de pis, laisse souvent au lecteur la peine de démêler ces petites circonstances dans le sein des ténèbres, et le jette ainsi dans la plus grande perplexité. Sophie fut bientôt guérie de son effroi par l'entrée du noble père, qui n'était pas seulement une connaissance intime de Mrs. Fitzpatrick, mais réellement un ami très particulier de cette dame. S'il faut dire la vérité, c'était à son secours qu'elle devait les moyens d'avoir échappé à son mari. Car ce seigneur ressemblait à ces chevaliers, renommés pour leur galanterie, dont l'histoire héroïque fait mention, et qui ont délivré de prison plus d'une beauté célèbre. Il était aussi acharné contre l'autorité tyrannique, trop souvent exercée par les maris et les pères sur de jeunes et charmantes personnes de l'autre sexe, que jamais chevalier errant le fut contre le pouvoir barbare des enchanteurs. À dire vrai, j'ai souvent soupçonné que ces mêmes enchanteurs, dont fourmillent tous les romans, n'étaient réellement autres que les maris d'alors, et que le mariage lui-même était peut-être le château enchanté dans lequel on disait que ses beautés étaient renfermées. Ce seigneur avait une terre dans le voisinage de Fitzpatrick et s'était lié depuis quelque temps avec la dame. Il n'eut donc pas plutôt été instruit de son emprisonnement qu'il s'occupa vivement de lui procurer la liberté. Projet qu'il exécuta, non en donnant l'assaut au château, suivant l'exemple des héros anciens, mais en corrompant le gouverneur, conformément à la nouvelle tactique où la ruse est réputée préférable à la valeur et l'or considéré comme plus irrésistible que le plomb ou l'acier. La dame, n'ayant pas jugé ces deux circonstances assez importantes pour en faire part à son ami, nous n'avions pas voulu alors en instruire le lecteur. Nous avions préféré de le laisser un moment supposer qu'elle avait trouvé, ou fabriqué, ou s'était procuré par quelques moyens très extraordinaires ou même surnaturels, l'argent dont elle s'était servie pour corrompre sa geôlière, que d'interrompre son récit par un fait qui lui avait paru trop peu essentiel pour en faire mention. Le père, après une courte conversation, ne put s'empêcher de témoigner quelques surprises de rencontrer la dame en cet endroit, et ne put lui taire qu'il avait tout lieu de la croire actuellement à Bath. Mrs. Fitzpatrick lui répondit avec beaucoup de franchise que l'exécution de son projet avait été arrêtée par l'arrivée d'une personne qu'il n'était pas nécessaire de nommer. « En un mot, ajouta-t-elle, j'ai été atteinte dans la route par mon mari. Car pourquoi affecterais-je de cacher ce que le monde sait trop à présent? J'ai eu le bonheur de lui échapper de la manière la plus surprenante, et je vais maintenant à Londres avec cette jeune dame, qui est une de mes proches parentes, et vient d'échapper à un tyran aussi cruel que le mien. » Le lord, concluant de ces derniers mots que ce tyran était encore un mari, fit un discours rempli de compliments pour les deux dames, et tout aussi abondant en invectives contre son propre sexe. Il se permit aussi, il faut le dire, quelques allusions détournées contre l'institution du mariage elle-même, et l'injuste pouvoir qu'elle donne à l'homme sur la portion la plus sensible et la plus parfaite de l'espèce humaine. Il termina son discours par l'offre de sa protection et de son carrosse à 6 chevaux, qui fut aussitôt accepté par Mrs. Fitzpatrick, et enfin, à sa vive sollicitation, par Sophie. Tout étant ainsi convenu, le Lord se retira, et les dames se mirent au lit, où Mrs. Fitzpatrick n'entretint sa cousine que des brillants éloges que méritait le caractère du noble père, s'étendant surtout très particulièrement sur le grand amour qu'il avait pour sa femme, disant entre autres choses qu'elle le croyait peut-être le seul mari de son rang qui fût réellement fidèle. « Je vous assure, ma chère Sophie, ajouta-t-elle, que c'est une vertu très rare parmi les gens de qualité. Ne vous y attendez pas quand vous vous marierez, car, croyez-moi, si vous y comptez, vous serez certainement trompée. » À ces mots, Sophie poussa un léger soupir, qui contribua peut-être à lui procurer un songe peu agréable. Mais comme elle n'a jamais révélé ce songe à personne, le lecteur ne peut pas s'attendre à le trouver ici. Chapitre 9. Le matin donne lieu à une assez jolie description. Voiture publique, politesse des femmes de chambre, caractère héroïque de Sophie, sa générosité, la reconnaissance qui en est la suite, départ de la compagnie et son arrivée à Londres, quelques remarques à l'usage des voyageurs. Ceux des membres de la société qui sont nés pour procurer aux autres les jouissances de la vie commençaient à allumer leurs chandelles et se mettaient en devoir de reprendre leurs travaux journaliers pour l'utilité de ceux qui sont nés pour posséder ces jouissances. Le vigoureux valet de charrue assiste en ce moment au lever de son camarade de labour, le bœuf. L'artisan industrieux, l'ouvrier diligent quittent leur dur matelas, et la servante joyeuse commence à remettre en ordre les meubles de la salle à manger que les bruyants convives de la veille avaient renversés. Tandis que les auteurs de ce désordre se retournent et s'agitent dans leur lit, ne goûtant qu'un léger sommeil sans cesse interrompu, comme si le duvet même était trop dur pour qu'ils puissent jouir du repos. Pour me servir d'une phrase plus simple, l'horloge n'eut pas plus tôt frappé 7 heures que les dames furent prêtes à se mettre en route, et que, suivant leur désir, Milord et son équipage étaient préparés pour les recevoir. Il s'éleva alors une petite difficulté. C'était de savoir comment Milord lui-même ferait la route. Car, quoique dans les voitures publiques, où les voyageurs sont tout simplement considérés comme autant de paquets, l'ingénieux cocher ait le talent d'en faire tenir une demi-douzaine parfaitement à l'aise, bien qu'il n'y ait réellement place que pour 4, quoiqu'il ait calculé que la grasse aubergiste ou l'alderman bien nourri ne doivent pas tenir plus de place que la jeune fille la plus menue ou le petit maître le plus svelte, cependant, dans ces sortes de voitures, que par distinction on appelle carrosse de maître, cette méthode d'empaqueter les gens n'est jamais mise en usage, quoiqu'elle soit souvent beaucoup plus large que les autres. Milord voulait terminer sur le champ cette difficulté en faisant la proposition extrêmement galante de monter à cheval, mais Mrs. Fitzpatrick n'y voulut pas absolument consentir. Il fut donc arrêté que les Abigail se relairaient chacune à leur tour sur l'un des chevaux de Milord, sur lequel on mit en conséquence une selle de femme. Tout étant réglé à l'auberge, les dames renvoyèrent leur premier guide, et Sophie fit un présent à l'hôte, en partie pour le dédommager de la contusion qu'il avait reçue dans la chute qu'elle lui avait fait faire en descendant de cheval, et de ce qu'il avait souffert de la fureur et des ongles de sa femme de chambre. Ce fut dans ce moment que Sophie s'aperçut pour la première fois d'une perte qui lui causa quelque chagrin. C'était celle d'un billet de banque de 100 livres sterling, que son père lui avait donné à leur dernière entrevue, et qui, joint à son argent de poche, montant à une somme bien légère, était le seul trésor qu'elle posséda pour le moment. Elle chercha partout, remua et secoua tous les meubles, mais inutilement. Le billet ne put se retrouver. Elle se persuada enfin qu'il était tombé de sa poche dans la chute qu'elle avait eu le malheur de faire en passant par le sentier obscur dont nous avons parlé. Fait qui paraissait d'autant plus probable qu'elle se souvint alors du dérangement qu'elle avait aperçu dans ses poches et de l'extrême difficulté avec laquelle elle en avait tiré son mouchoir pour rendre service à Mrs. Fitzpatrick au moment même qui avait précédé sa chute. Des infortunes de ce genre, quelques inconvénients qui en puissent résulter, ne peuvent abattre un esprit dans lequel il y a quelque force. si l'avarice ne s'en mêle. Sophie, quoique cet accident ne pût venir plus mal à propos, surmonta sur le champ son chagrin, et avec sa sérénité et même son enjouement accoutumé, rejoignit la compagnie. Milord conduisit les dames à sa voiture, ainsi que Mrs. Honora, qui, après beaucoup de politesse, et un plus grand nombre encore de « chère madame », céda enfin aux civiles importunités de sa camarade Abigail et voulut bien accepter l'honneur de faire le premier relais dans la voiture, où, à dire vrai, elle aurait consenti par la suite à demeurer tout le voyage si sa maîtresse, après plusieurs avis infructueux, ne l'eût enfin obligée de monter à cheval à son tour. La voiture, se trouvant alors remplie, partit, accompagnée par un grand nombre de domestiques et par deux capitaines de retour de leur garnison qui avaient accompagné jusque-là Milord dans sa voiture et qui l'auraient quitté pour un motif beaucoup moins important que celui d'être utile à deux dames. En ceci, ils se conduisirent uniquement comme des hommes bien nés. Mais dans toutes les occasions, ils étaient prêts à remplir les fonctions de laquais, ou même de plus vils encore, pour avoir l'honneur de la compagnie de Milord et la jouissance de sa table. L'hôte était si charmé du présent qu'il avait reçu de Sophie qu'il se réjouissait plutôt qu'il ne se plaignait de sa contusion et de ses égratignures. Le lecteur sera peut-être curieux de savoir le quantum de ce présent, mais nous ne pouvons satisfaire sa curiosité. Quel qu'il fût, il suffit à l'hôte pour l'indemniser complètement. Mais il était au désespoir de n'avoir pas su plus tôt le peu de cas que Sophie faisait de son argent, car sûrement, disait-il, on aurait pu doubler chaque article de dépense et elle n'aurait pas chicané sur le mémoire. Cependant, sa femme était loin de tirer la même conséquence de la générosité de Sophie. Soit qu'elle ressentît l'injure faite à son mari plus vivement que lui-même, il est certain qu'elle était moins satisfaite que lui. « Allez, mon cher, lui dit-elle, cette dame sait mieux que vous ne l'imaginez le parti qu'on peut tirer de son argent. Elle a fort bien pu penser que nous n'aurions pas laissé là cette affaire sans quelque satisfaction. Et la justice lui aurait coûté infiniment plus cher que cette misérable petite bagatelle qu'elle vous a donnée, et que je m'étonne que vous ayez pu accepter. Vous êtes toujours fort sage, répliqua son mari, mais aussi vous êtes bien cruelle. Il lui en aurait coûté davantage, j'en conviens. Croyez-vous que je ne le sais pas aussi bien que vous? Mais cette somme, ou même une égale à celle que j'ai reçue, serait-elle rentrée dans notre poche? Certainement, si mon fils Tom, l'avocat, vivait encore, je me serais fait un plaisir de mettre une jolie affaire de cette nature entre ses mains. Il en aurait tiré un bon parti. Mais je n'ai plus de parents avocats, et à quoi bon plaiderions-nous pour faire du bien à des gens qui nous sont étrangers? Non, sans doute, reprit-elle, vous devez en savoir plus que moi. Je le crois, reprit-il. J'imagine que je flaire aussi bien qu'un autre les occasions où il y a de l'argent à gagner. Tout le monde, permettez-moi de vous le dire, n'aurait pas eu l'éloquence nécessaire pour se faire donner cette somme. Notez cela, je vous prie. Tout le monde ne serait pas parvenu, comme moi, à tirer d'elle autant d'argent, notez cela. La femme applaudit alors à la sagacité de son mari, de concert avec lui, et ainsi finit la petite conversation qu'ils eurent ensemble à ce sujet. Nous allons donc prendre congé de ces bonnes gens et suivre Milord ainsi que ses belles compagnes. Ils furent si bien servis sur la route qu'ils firent 90 000 en 2 jours et parvinrent le lendemain soir à Londres sans qu'il leur fût rien arrivé que la dignité de cette histoire nous permette de raconter à nos lecteurs. Notre plume courra donc sur le papier aussi vite que nos voyageurs sur la route et notre histoire arrivera à Londres aussitôt qu'eux. Les bons écrivains doivent imiter en cela le voyageur qui, voulant véritablement s'instruire, proportionne son séjour en chaque endroit aux beautés, aux agréments et aux curiosités qui s'y trouvent. À Esha, à Stowe, à Wilton, à Eastbury et au parc de Praia, l'imagination ravie ne trouve pas les jours assez longs pour admirer tout ce que le pouvoir étonnant de l'art est parvenu à ajouter à la nature. Dans quelques-uns de ces beaux lieux, c'est surtout l'art qui excite notre admiration. Dans d'autres, la nature le dispute à l'art, mais dans le dernier, elle semble triompher tout à fait. Elle s'y montre dans sa plus riche parure, tandis que l'art, vêtu avec la simplicité plus modeste, n'y paraît que pour relever les grâces de son aimable souveraine. Elle y a répandu, en effet, avec le goût le plus exquis, ceux de ses trésors les plus précieux qu'elle a prodigués à cet univers. En sorte que les beautés qui s'offrent à la vue dans une partie du parc ne peuvent être surpassées que par celles que l'on rencontre dans un autre. Le même goût, la même imagination qui s'enivre de volupté à la vue de ces tableaux charmants, peut encore se plaire à des objets d'un mérite inférieur. Les bois, les rivières, les sentiers de Devon et de Dorset attirent les regards et ralentissent la marche du voyageur. Mais bientôt il regagne le temps perdu en traversant au galop les tristes bruyères de Bagshot et cette plaine agréable qui s'étend à l'ouest de Stockbridge, où nul autre objet ne se présente à la vue dans l'espace de 16 milles qu'un seul arbre, à moins que par pitié pour notre ennui, le ciel ne permette obligeamment aux nuages de se dessiner en forme variée et agréable. Ce n'est point ainsi que voyage le commerçant dévoré de la soif de l'or, le juge de paix au regard pénétrant, le docteur élevé à quelque dignité, le marchand de bestiaux lourdement vêtu, et tous les nombreux enfants de l'opulence et de la sottise. Ils se laissent cahoter sur leurs chevaux d'un pas absolument égal, à travers les prés fleuris ou les bruyères incultes, ceux-ci mesurant 4,5 milles par heure avec la plus grande exactitude, les yeux de la bête et ceux de son maître également dirigés en avant et employés à contempler les mêmes objets de la même manière. C'est avec une égale admiration que ces bons voyageurs regardent les plus orgueilleux chefs-d'œuvre de l'architecture et ces lourds bâtiments, dont quelques personnages ignorés a embelli nos villes à riches manufactures, et où des masses de briques amoncelées sont autant de monuments qui attestent que des sommes d'argent y ont été autrefois amoncelées. Mais, mon cher lecteur, comme nous sommes en ce moment fort pressés de suivre notre héroïne, nous laisserons à ta sagacité le soin de faire l'application de tout ceci. Tu t'en tireras très facilement sans notre secours, car quoique nous consentions toujours à te prêter notre assistance dans les endroits difficiles, n'attendant pas de toi, comme quelques autres auteurs, que tu aies recours à la magie pour découvrir notre pensée, nous n'encouragerons pas cependant ta paresse toutes les fois que ton attention seule pourra suffire à nous comprendre. Car tu te trompes beaucoup si tu t'imagines qu'en commençant ce grand ouvrage, nous ayons eu l'intention de ne rien laisser à faire à ta sagacité, ou que, sans exercer quelquefois ce rare talent, tu puisses suivre le cours de cette histoire avec quelque plaisir ou quelque profit.